Alors démarrons ce premier chapitre qui va nous faire glisser insensiblement du mythe au conte et posons une question d'emblée, qu'est-ce qu'un mythe? Car si l'on veut parler du conte, si l'on veut parler du folklore, si l'on veut parler du carnaval, ce qui est le thème de cette année, il faut d'abord dire ce qu'est un mythe. C'est indispensable. Je l'avais expliqué la semaine dernière en effet, donc conte, folklore et carnaval sont des dérives, si on veut, des mythes anciens, des pratiques rituelles anciennes, et si on veut faire la distinction, si on veut voir comment on passe de l'un à l'autre, alors il faut d'emblée dire ce qu'est un mythe. On va y consacrer deux cours seulement, c'est très peu hein, pour expliquer ce qu'est un mythe. Je ne voulais pas donc passer plus de temps pour parler du mythe. Un mythe, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Un mythe, ça n'est pas un conte, ça n'est pas du folklore, ça n'est pas, ça n'est pas carnavalesque. Hein, bon. Alors on consacre que deux cours seulement au mythe, deux cours difficiles, je vous avais prévenu la semaine dernière, hein. Bon, mais il ne faut pas se démonter, hein. il faut accepter l'idée que le mythe, ce n'est pas simple, le mythe, c'est quelque chose qui n'est pas facile à aborder, à comprendre, à impliquer dans la société. Alors, c'est ce qu'on va tenter de faire. Bon, donc deux cours qui sont difficiles, mais indispensables, encore une fois. Hein. On ne peut pas se passer de cette définition du mythe si on veut aller plus loin et distinguer le mythe du conte, du folklore ou du carnaval. Alors il va falloir supporter ces deux premiers cours. Vous pouvez, à l'issue de ces deux cours, ne tirer que l'essentiel, c'est-à-dire, oui, effectivement, le mythe, c'est compliqué. Et ça sera déjà bien, c'est-à-dire que si vous arrivez à cette conclusion, à l'issue des deux cours, que le mythe, c'est quelque chose de difficile, ben, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. À partir de là, bon, ben, on pourra aborder notre sujet qui est, je l'avais dit la semaine dernière, folklorique. Hein, ça sera carnavalesque hein, cette année. Hein, donc, sauf qu'il y a ces deux premiers cours, bon, ben, il va falloir les supporter. Alors, qu'est-ce qu'un mythe? Le mythe dit toujours comment quelque chose est né. Donc on va s'attacher en fait à Mircea Eliade. Mircea Eliade, dont vous avez les références sur la projection, c'est un historien des religions, mythologue, philosophe, romancier, qui est roumain, très très pertinent, et Mircea Eliade, à ce propos, précise « Le mythe est un récit des origines ». Donc le mythe dit toujours comment quelque chose est né, le mythe est un récit des origines. Dans tous les cas, en fait, le mythe est un récit des origines. Et d'après le savant, le mythe, en tant qu'histoire des origines, a une fonction d'instauration. Alors le mot est le mot-clé hein, de ce cours, la fonction d'instauration du mythe, parce que le mythe est un récit des origines, parce qu'il dit comment est né quelque chose. Ajoutons qu'il n'y a mythe que si l'événement fondateur n'a pas de place dans l'histoire. L'événement fondateur que rapporte le mythe est hors de l'histoire, hein, en dehors de l'histoire. Bon, alors en effet, pour comprendre ce point, comment pourrait-on parler de l'origine de l'univers et placer surtout l'origine de l'univers dans l'histoire ou même l'origine de l'homme dans l'histoire, comment pourrait-on faire pour parler de ça, sinon que par un mythe, étant entendu que l'origine des choses, ça n'est pas le début des choses. Hein. L'origine des choses est antérieure, si l'on veut, au départ des choses, à ce qui vient de commencer. Le début, lui, peut être daté, peut être historicisé, mais pas l'origine. C'est absolument impossible, que ce soit pour l'univers, que ce soit pour l'homme, par exemple. Hein. Alors, justement, on peut prendre un exemple. En date de 2019, les meilleures mesures suggèrent que les événements initiaux, c'est-à-dire le Big Bang, remontent à entre 13,7 et 13,8 milliards d'années. Remarquez une chose, ces événements ne nous disent rien sur l'origine du Big Bang. On peut dater le Big Bang, c'est-à-dire dire quand est-ce qu'il a eu lieu, mais ça ne nous dit rien sur l'origine du Big Bang, donc de l'univers. Et si l'on veut raconter l'origine de l'univers, il faut raconter des mythes. Ces mythes sont des mythes cosmogoniques ou encore anthropogoniques, si on s'attache bien sûr à l'origine de l'homme. Alors cette définition que nous donne Mircea Eliade, hein, je reprends l'essentiel, le mythe c'est un récit des origines, il a une fonction d'instauration, suggère pour nous un plan en trois parties que l'on va développer sur les deux cours. Donc la première partie qu'on va traiter aujourd'hui, donc s'affiche sur la projection, donc le mythe en tant qu'histoire des origines a une fonction d'instauration, c'est la première partie, j'ai repris carrément la citation de Mircea Eliade, hein, c'est Mircea Eliade qui écrit ça, le mythe en tant qu'histoire des origines a une fonction d'instauration, et on va traiter ça en trois sous-chapitres. D'abord, on verra, ou on parlera de ces êtres surnaturels qui assument cette fonction d'instauration. Ensuite, dans une deuxième sous-partie, on dira que le rite réactive le mythe des origines dans le temps présent. Vous voyez déjà ici, hein, ce qui est intéressant, le mythe échappe à l'histoire, est hors histoire. Oui, mais par le biais du rite, on réactive le mythe, hein, dans le présent, dans notre histoire à nous. Et enfin, dans une troisième sous-partie, on dira que cette réactivation du mythe par le rite développe des affects, ce qui est fondamental. Là, vous avez des choses qui sont fondamentales concernant le mythe. Donc ça sera la première partie qu'on va traiter aujourd'hui, suivie d'une deuxième partie qu'on traitera aujourd'hui, a priori on la traite aujourd'hui, c'est-à-dire une deuxième partie qui va consister à donner un premier exemple, un exemple appliqué si vous voulez. On aura déjà une approche du mythe et on va tenter d'appliquer cette approche. Donc premier exemple, appliqué au récit judéo-chrétien, c'est-à-dire au monothéisme finalement. Et là aussi, on évoquera deux exemples dans cette application. En fait, c'est l'exemple de l'histoire du salut et c'est l'exemple de l'eschatologie. On verra comment on peut appliquer la définition du mythe dans l'histoire du salut et de l'eschatologie, c'est-à-dire dans le contexte monothéiste. La troisième partie, on la traitera la semaine prochaine. Mais je vous la donne déjà, donc la troisième partie, c'est un deuxième exemple qui, quant à lui, sera appliqué au récit de la Grèce ancienne, c'est-à-dire au polythéisme. Donc on aura, ou on va partir d'une définition du mythe, on l'applique au récit judéo-chrétien, contexte monothéiste, et on l'applique ensuite au récit de la Grèce ancienne, c'est-à-dire contexte polythéiste. Et là, on devra effectivement passer par l'analyse structurale, faire du structuralisme, enfin expliquer très, très succinctement ce qu'est le structuralisme, qui permet une approche du mythe qui est extrêmement pertinente, et ensuite on donnera un exemple, si vous voulez, le mythe dans la société grecque. Mais ça c'est la semaine prochaine, donc on verra cette troisième partie, ce deuxième exemple appliqué, si vous préférez. Donc voilà le plan de nos deux cours qui sont difficile. Alors, démarrons aussitôt avec cette première partie. Donc, on part de cette définition qu'a donnée Mircea Eliade. Le mythe est un récit des origines. Il a une fonction d'instauration. Et effectivement, cet événement fondateur qui appartient à un temps avant l'histoire implique trois choses. Trois choses, c'est le petit a, le petit b, le petit c. Donc on commence par le petit a. Cette fonction d'instauration peut être assumée par des êtres surnaturels. Donc on nous parle de l'origine, de l'univers par exemple, ou des hommes, et c'est souvent assumé par des êtres surnaturels, de nature très diverse. Il n'y a pas que des dieux parmi ces êtres surnaturels. Ça peut être aussi des messagers, des héros, des formes mi-humaines, mi-animales, donc des formes fantastiques, si vous voulez. Mais dans le schéma de l'histoire des commencements, leur figure, la figure de ces êtres surnaturels qui assument l'instauration des choses à l'origine de tout, leur figure sont une fonction seconde par rapport à la fonction d'instauration. Je le dis autrement, les dieux sont appréhendés pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est déjà fondamental. C'est-à-dire que quand vous avez un récit des origines, ça implique des êtres surnaturels, ils assument cette fonction d'instauration, mais ce n'est pas eux qui sont importants. Ce qui importe, c'est ce qu'ils font et non pas ce qu'ils sont. Alors on en déduit que l'histoire comparée des religions est mal orientée, très mal orientée, si elle s'intéresse uniquement à ces figures, à ces représentations, à ces êtres surnaturels, quels qu'ils soient, Dieu ou pas. Bon, c'est-à-dire en les abordant en un mot comme de purs anthropomorphismes. Donc l'être surnaturel est, donc une figure anthropomorphisée, et là effectivement, si on voit les choses que comme cela, donc ce qu'ils sont, on se trompe finalement d'orientation. Et c'est en partant de ce principe, c'est-à-dire que ce sont des êtres d'apparence humaine, que l'on finit par parler d'une possible existence de ces êtres surnaturels. C'est ce qu'on appelle, vous le savez, les vénérismes. Ça s'affiche sur la projection. Qu'est-ce que les vénérismes? C'est une doctrine selon laquelle les dieux de la mythologie étaient des personnages humains divinisés après leur mort. Donc, je résume les choses, c'est pas notre orientation. Il ne faut pas prendre cette orientation. On peut le dire, Dante Vénère, c'est un auteur de l'Antiquité. Il a soulevé cette solution, cette hypothèse, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas effectivement comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, alors, ce n'est pas notre orientation, on l'a compris. Il faut les prendre, ces êtres surnaturels qui assument la fonction d'instauration dans ces récits d'origine, ces mythes, bon, il faut les prendre à partir du récit des origines comme une variable de la fonction instauratrice. Variable dans le sens que Varuna, le grand dieu Varuna, équivalent de Zeus, équivalent de Jupiter, équivalent d'Odin, équivalent de Wotan, semble avoir une personnalité. Varuna semble avoir une personnalité. Mais le récit qui le met en scène est toujours le même. Que vous soyez en Inde, en Grèce, à Rome, chez les Germains ou bien les Scandinaves. Et là on voit effectivement que la figure, donc l'être surnaturel qui assume donc la fonction d'instauration, est seconde. Ça n'est qu'une variable. Ce qui va compter, c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Alors, oui, ce qui a égaré, ou ce qui a pu égarer dans le domaine de l'histoire comparée des religions, ce qui a pu égarer, c'est le fait que ces figures sont, c'est vrai, susceptibles de prendre leur autonomie. Vous connaissez l'histoire de Zeus, de Jupiter, d'Odin, de Wotan, de Varuna. Bon. Donc ils prennent leur autonomie, on raconte l'histoire des dieux dans des mythologies qui sont articulées, dans ce cas ce sont des théogonies, d'accord ? On raconte quand et comment ils ont été créés, eux, les dieux, bon. Comment ils ont abandonné leur création, comment ils se sont retirés. On raconte aussi comment ils luttent entre eux. Il y a des conflits entre dieux, entre classes de dieux, entre catégories de dieux. Les dieux olympiens contre les titans, les vannes contre les ases, par exemple, etc., etc. Bon, on raconte tout ça, et ce n'est pas ce qui va compter. Ça nous trompe un peu, ça. La théogonie, donc l'histoire de ces dieux, ça nous trompe un petit peu. D'ailleurs, remarquez-le, ce ne sont pas seulement les dieux qui créent les choses, qui assument cette fonction d'instauration. Il y a tout un tas d'êtres divins. Ou alors il peut y avoir des astres qui sont comme des êtres surnaturels et qui vont assumer cette fonction d'instauration. Donc il faut les prendre avec beaucoup de précaution, ces dieux, et bien voir effectivement que ce sont toujours des variables de la même histoire, que ce qui compte, c'est ce qu'ils ont fait. Donc le récit des origines, quoi. Voilà. Donc des astres, des éléments du cosmos qui peuvent tout à fait prendre leur autonomie par rapport à l'histoire des origines, mais c'est trompeur, donc il faut s'attacher au récit lui-même, au récit, c'est-à-dire à ce qui a été fait, à l'instauration des choses. Donc ainsi, l'univers mythique présente une prolifération de formes du surnaturel. Alors il y a le surnaturel ni divin ni humain, qui peut avoir bien sûr une fonction instauratrice, hein, donc là ici par exemple un personnage qui fait partie d'une catégorie intermédiaire, c'est-à-dire au-dessus des hommes, c'est bien un être surnaturel, mais en dessous des dieux, mais qui peut avoir une fonction donc instauratrice. Bon, ça peut être aussi le héros, un héros, un fils de roi abandonné, un fils de roi sauvé des eaux, qui va instaurer quelque chose. L'exemple le plus célèbre, c'est donc Rémus et Romulus, enfin Romulus si vous préférez, bon, ainsi de suite. Alors, dans tous les cas, ce dont on nous parle, c'est l'origine des choses. Hein, donc le mythe a cette fonction d'instauration. C'est un mythe d'origine, on nous parle de la fondation de quelque chose, de l'instauration de quelque chose. Donc ça, c'était la première donc, remarque qu'il fallait faire. Donc le petit A, si vous voulez, de la première grande partie, être précautionneux, prendre ses distances par rapport à ses dieux et s'attacher à ce qu'ils font et non pas ce qu'ils sont. Passons au petit B. Passons au petit B. Donc la deuxième chose, quand on dit effectivement que ben, le mythe est un récit des origines, qu'il a une fonction d'instauration, que l'événement fondateur appartient à un temps avant l'histoire, la deuxième chose c'est qu'il y a un lien très étroit qui existe entre le mythe et le rite. Mais très très étroit, hein, entre le mythe et le rite. Donc le mythe semble fonder le rite. Le mythe fonde le rite en établissant des paradigme d'action. Car le rite, c'est ça, hein, le rituel, le culte, c'est un ensemble d'actes, si vous voulez. Le mythe semble fonder comme ça ces paradigmes d'action. Le rituel lui-même, le culte, si vous voulez. Alors attention toutefois quand on voit les choses de cette façon, quand on dit le mythe fonde le rite, ça laisse entendre que le mythe vient avant le rite. Il y a eu le mythe et ensuite le rite, et que le mythe établit les règles d'action, si vous voulez, du rituel. Bon, mais il y a des historiens des religions qui, d'une façon très fine, très nuancée, voient les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'ils précisent que le mythe est au contraire la parole explicative du rite. Donc, le rite a précédé le mythe. Si le mythe est la parole explicative du rite, c'est qu'il y a d'abord eu des actes. Il y a d'abord eu des gestes, des rituels, des cultes, et pour expliquer ces gestes, on a inventé le mythe. Et souvent on dit, le mythe est la parole explicative du rite. Hein. Ce qui veut dire d'ailleurs, dans ce cas, pour ceux qui suivent cette solution, que la religion est une orthopraxie. Une orthopraxie, ça veut dire que la religion, quelle qu'elle soit, se fonde d'abord sur une pratique, ou des pratiques, des gestes. Si vous voulez, hein, des rituels, des cultes, et que les mythes viennent après pour expliquer justement ces rituels ou ces gestes qui peuvent paraître étonnants. Bon, mais cette deuxième proposition que je trouve très très intéressante, très, donc très subtile, on la laissera de côté et on acceptera l'idée toutefois pour la suite de ce cours que le mythe fonde le rite, que c'est le mythe qui fonde le rite en établissant des règles, des paradigmes d'action. Alors, par exemple, on a mis en lumière un lien qui est vraiment très frappant, hein, pour justement illustrer ce point, entre le grand récit de création et le rituel du Nouvel An au cours duquel le mythe est lu et le roi intronisé. C'est ce qu'on a appelé dans l'école scandinave, donc les mythographes qui sont de l'école scandinave, c'est ce qu'on a appelé l'idéologie du roi. Une idéologie qui s'appuie sur cette filiation qui existe entre le mythe, le rite et la royauté. Comprenez les choses très simplement. On a un rituel. Ce rituel, c'est le rituel du Nouvel An. Par exemple, à Babylone. À Babylone, donc, il y avait effectivement, dans l'Antiquité, donc un Nouvel An qui était fêté, et donc un ensemble de rites, enfin un rite donc, du Nouvel An à Babylone. Au cours du rituel, le mythe des origines est élu, impliquant le grand dieu Marduk, hein, qui a créé l'univers, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Bon. Et à l'occasion de ce rituel, au cours duquel le mythe des origines est élu, on en profitait pour introniser le roi. Vous voyez les choses hein, comment elles s'articulent les unes aux autres. Hein. C'est ce qu'on appelle l'idéologie du roi. On profite du rituel du nouvel an, au cours duquel on lit le mythe des origines, pour introniser le roi, donc, comprenez bien, pour instaurer une nouvelle ère. L'année qui va venir, c'est une nouvelle ère. Grâce à qui ? Au nouvel homme. Le nouvel homme étant le roi. À ce propos, ce mythe de l'homme nouveau a toujours cours aujourd'hui. Il est toujours très vivant, hein, l'homme nouveau. Que ce soit en politique ou ailleurs, il y a toujours ce mythe donc de l'homme nouveau. Bon, alors c'est ça qu'il faut voir en fait, hein, ce lien, cette relation extrêmement étroite entre le grand récit de création, le rituel du nouvel an, et l'intronisation du roi. Donc on voit comment les choses s'articulent, et là il se produit quelque chose de fondamental. De même que dans la première partie, on a compris que ce qui compte, c'est ce que les êtres surnaturels font et non pas ce qu'ils sont. Là, on va dire quelque chose de fondamental, le mythe qui appartient à un temps avant l'histoire, on l'a dit tout à l'heure, le mythe maintenant s'invite dans le temps présent, alors qu'il appartient à un temps avant l'histoire. Mais il s'invite dans le temps présent par le moyen du rite. Le rituel, qui est une véritable mise en scène, le rituel est toujours quelque chose de théâtralisé, le rituel nous dit ceci, voilà comment les choses ont été fondées à l'origine, et elles sont encore aujourd'hui, de la même façon. Donc on va expliquer le présent, on va assurer et assumer l'avenir grâce au mythe des origines. On réintroduit dans le temps présent notre histoire, si vous voulez, le mythe des origines. Donc ça c'est important, le mythe des origines c'est pas un mythe une fois pour toutes. Vous voyez, un mythe qu'on va laisser de côté, qui va nous dire comment les choses ont été créées et dont on ne se resservira plus par la suite. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme cela que le mythe peut être tenu comme l'instruction permettant d'opérer le rite. Et par là même, de répéter l'acte créateur. Ça, c'est très important. Le rite réactive le mythe des origines. Grâce au rite, on va répéter l'acte créateur. Le répétant, on va garantir l'avenir. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre grâce à l'homme nouveau, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième point qui m'a semblé très, très important. C'est cette nuance qu'il faut effectivement donc avoir en tête. Donc le mythe des origines, il n'est pas perdu en fait, hein. Il est toujours là, il est toujours présent, hein. Il s'implique dans la société, voire même on peut dire c'est tous les jours, hein, tous les jours qu'il est présent dans notre imaginaire, hein, et que l'on espère même, hein, dans ce mythe des origines pour l'avenir. Mais on n'en est pas encore là. Alors troisième chose, hein, il y avait trois sous-parties, hein, dans la première grande partie. Troisième chose, hein, je redis encore les choses pour bien les comprendre, on est parti de cette définition, le mythe est un récit des origines, il a une fonction d'instauration, bon, il appartient à un temps avant l'histoire, mais on a vu que les êtres surnaturels comptent pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont, et on vient de dire à l'instant, le rite vient réactiver ce mythe des origines. Bon, passons donc à la troisième chose. La troisième chose concerne les affects. Entendons-nous là-dessus, qu'est-ce que l'affect ? L'affect est une disposition affective élémentaire. Mais alors élémentaire, hein, c'est-à-dire c'est primitif, quoi, si vous voulez. Hein. Ça doit se loger là aussi dans la partie la plus reptilienne de notre cerveau, si vous voulez. Pour le dire autrement, rappelons que l'antonyme de l'affect, c'est l'intellect. Vous avez l'intellect et vous avez l'affect. Et c'est vraiment donc à l'opposé l'un de l'autre. Bon, alors c'est de ça que nous parlons. La troisième chose concerne donc les affects. La liaison entre le temps historique et le temps primordial. Cette liaison que l'on vient de mettre en évidence grâce au rite. D'accord ? Donc le rite réactualise le mythe et donc du même coup le mythe des origines est réinséré dans notre histoire, dans notre temps présent, dans notre temps historique. Bon, cette liaison entre le temps historique et le temps primordial développe des affects. Qui le dit ou qui l'a dit ? C'est Rudolf Otto, vous avez sa référence sur la projection, d'un très très célèbre ouvrage qu'il a publié en 1917, qui s'appelle Le Sacré. Voilà, le titre de l'ouvrage, c'est tout bêtement Le Sacré. Et c'est lui qui dit ça, qui fait cette proposition, qui a été suivie hein, par tous les historiens des religions, parce que c'est très vrai, bien sûr, ça développe des affects. Alors, plus précisément, Rudolf Otto décrit dans son ouvrage, là, Le Sacré, enfin, il décrit, il explique ceci, que l'origine du sacré, donc c'est un sentiment ambivalent de crainte et d'amour. Il va mettre effectivement à l'origine du sacré un sentiment ambivalent de crainte et d'amour. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller chercher très très loin dans notre striatum, donc la partie la plus reptilienne du cerveau, justement ces sentiments ambivalents de crainte et d'amour qui ont toujours existé et qui font l'homme depuis toujours. Et voilà. Et donc effectivement, ce lien entre le temps historique et le temps primordial, par le biais du rite, développe tout cela, des affects. Alors, dans le rituel, on peut parler d'une réactivation émotionnelle. L'émotion est très forte dans un rituel. Hein. Les affects sont là. Hein. Bon. Vivre selon un mythe, c'est cesser d'exister dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a un temps du rituel qui échappe au quotidien. Ça, c'est aussi très important. Un temps du rituel qui échappe au quotidien, et ce temps du rituel est vécu avec passion. On échappe à la vie quotidienne comme cela. Donc c'est une réactivation émotionnelle. Et ainsi, grâce au rituel, le mythe des origines, qui n'a pas sa place dans l'histoire, s'implique dans le temps présent et mieux oriente notre histoire. En raison de ses affects. Hein, c'est-à-dire c'est tellement chargé en émotions que ça va effectivement nous saisir, nous prendre et puis carrément donc orienter notre histoire par le biais de l'imaginaire ou autre chose. Mais ça on va le voir dans un instant, mais avant cela je résume ce qui a été dit dans cette première partie. Donc on va résumer ces trois points. Vous avez bien compris le premier: des êtres surnaturels assument la fonction d'instauration, mais la fonction d'instauration prévaut sur ces êtres surnaturels. Bon, ça on l'a bien compris. Deuxième chose, un lien s'établit entre le récit mythique et le rite. Ça aussi, on l'a bien compris. Entre le temps mythique des origines et le temps présent, il y a un lien, grâce au rite. C'est le rite qui assure ce lien, si vous voulez, hein, entre le temps mythique des origines, où tout est instauré, et le temps présent. Et troisième chose, ce lien, est à la fois profond, très profond, et chargé d'affect. Ce qui se traduit dans le théâtre, par exemple. Pensez au théâtre, on vient de le dire. Le théâtre, enfin le rituel est théâtralisé. Mais on peut inverser les choses. On peut dire le théâtre, par sa mise en scène, est ritualisé. Vous pouvez voir les choses des deux façons. Le rituel, c'est du théâtre, bien sûr, c'est une mise en scène, et le théâtre est ritualisé. Le mythe ancien est chargé en émotion, ce que restitue très bien la tragédie grecque. Quand on écoute au théâtre, quand on voit donc au théâtre une tragédie grecque, c'est prenant, l'émotion est très forte. Mais n'oubliez pas, le tragédien de l'Antiquité, le tragédien grec, qu'est-ce qu'il fait sinon donc raconter des mythes? Et ce sont des mythes d'origine qu'il raconte, hein, essentiellement. Hein. Donc on voit bien effectivement comment on peut donc réactiver le mythe des origines, et comment, en le réactivant, l'émotion est très forte, hein, donc le rituel ou le théâtre se charge d'affect. Bon, je vais prendre un exemple qui est presque caricatural finalement, qui va intéresser deux personnes justement dans la salle tout particulièrement, puisque l'exemple est iranien. Donc l'exemple, alors voici, c'est l'exemple du tasier, le tasier. Alors, tasier, c'est quelque chose de très très important, qui était très important, parce qu'ensuite l'Iran a orienté ou s'est orienté dans une politique qui a finalement un peu interdit tout cela. Bon. Alors qu'est-ce que le tasier? Donc, vous l'écrivez comme vous voulez, enfin vous avez une orthographe là ici qui est possible. C'est le seul art dramatique du monde islamique. C'est pas compliqué. Donc vous cherchez parmi les sunnites, ce que ne sont pas les Iraniens sont des chiites, et vous cherchez parmi les chiites, il n'y a pas d'art dramatique. Le seul art dramatique dans le monde islamique, c'est ça, c'est le tasbih. Bon. Et c'est iranien. Il s'agit de la commémoration du deuil. C'est-à-dire que vous pourriez traduire tasbih par commémoration du deuil. Quel deuil? C'est le deuil de l'imam. C'est l'imam, hein, c'est l'imam descendant d'Ali, hein, on est dans le chiisme, l'imam c'est Hussein, qui est le martyr suprême des chiites. Bon, alors ce tasbih, cette commémoration du deuil de l'imam Hussein, martyr suprême des chiites, qui est adoré, hein, le mot n'est pas trop faible, hein, par les Iraniens, dans des régions d'Iran, notamment au nord-est de l'Iran, où vous n'allez pas, hein, donc là les Occidentaux n'y vont pas, hein, ils vont à Téhéran, ils vont à Ispahan, mais ils vont pas là-bas, hein, c'est interdit, strictement interdit. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, ce tasbih est joué dans un tékiyeh. Vous trouvez aussi le nom de tékiyeh. Et là, vous avez justement la photo qui restitue le tékiyeh et dolat de Téhéran à la fin du 19e siècle. C'est une très vieille photo de la fin du 19e siècle. On a joué justement la commémoration du deuil en question. C'est joué le 10 du mois de Muharram, c'est-à-dire au cours de l'Ashura. C'est l'Ashura, en fait. Bon. Et ce drame rappelle d'une façon frappante la mort tragique de Siavosh. Siavosh, qui est Siavosh, c'est un héros perse préislamique, les Perses achéménides, si vous voulez, hein, les Perses du temps qu'ils étaient zoroastriens, tous zoroastriens en base des, hein. Bon, il y avait un héros comme ça qui s'appelle Siavosh, et la mort tragique de Siavosh, c'est en fait la mort du martyr suprême des chiites, c'est-à-dire Hussein. Mais on ajoutera aussi que c'est pas sans rappeler les passions de Jésus et de Mani. Mani est à l'origine du manichéisme, hein, qui sont morts tragiquement. Jésus, Mani, Siavosh et l'imam Hussein. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des schèmes, il y a, si vous préférez, des schémas, il y a des modèles, hein, qui se répètent comme ça. Même modèle qui est appliqué à Jésus, à Mani, à Siavosh et puis à ce Hussein. Bon, alors, donc, on est dans le cadre du tékiyeh, c'est-à-dire une sorte de théâtre. Hein, bon. Soit on joue la commémoration du deuil, c'est un art dramatique, c'est du théâtre si vous voulez. Or, l'émotion du public est si forte au moment de la mort de l'imam Hussein, qui est tué par le bourreau Chemr. Chemr est l'acolyte du calife Omeyyade Yazid, donc les Omeyyades étaient sunnites, contre bien sûr ce parti d'Ali qui était donc le parti chiite. Bon, donc alors effectivement, donc, l'imam est tué sauvagement par le bourreau Chemr, mais l'émotion du public qui assiste à cette commémoration du deuil est telle que certains spectateurs jettent des pierres sur les acteurs. Les acteurs qui vont incarner avec trop de réalisme les séides de Yazid, c'est-à-dire ceux qui bastonnent, donc, enfin ceux qui vont tuer donc Hussein, ceux qui sont du côté du calife Omeyyade. Hein. Donc parfois ça vire très très mal. On a un exemple en 1820, on est dans les années 1820, donc ça s'est joué dans l'immense tékiyeh de Téhéran, que vous avez justement en photo ici. Attention, il a été détruit en 1947. Intéressant, 1947. Hein, tout ça, c'est un petit peu mis de côté en Iran à cette époque. Bon. Et alors, en 1820, dans ce tékiyeh, qui n'existe plus aujourd'hui à Téhéran, un comédien jouant le rôle du bourreau avait réellement décapité l'acteur qui, lui, jouait Hussein, c'est-à-dire le martyr suprême des chiites. Il était emporté par la passion, dépassé par les affects, si vous voulez. Il ne contrôlait plus rien du tout. Voilà, bon. Mais bon, là c'est un cas extrême, c'est un cas presque caricatural, je le reconnais, mais vous pouvez le trouver ailleurs. Vous trouvez des exemples comme ça ailleurs. Hein. Ce n'est pas propre à ce tasbih, hein, loin de là. Bon. Alors, donc justement, pour comprendre ce point, on rajoutera cet affect, ou ces affects, cette disposition élémentaire nous est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans passion. C'est pas possible. Hein. on a besoin constamment, presque on pourrait dire, de revivre d'une manière ou d'une autre l'émotion qu'induit le récit de nos origines, ou alors le récit de notre naissance, ou bien celui de notre éveil à la vie, le récit de notre éveil à la vie, ou de notre éveil à la foi. Durant la vie d'un homme, on a besoin effectivement de revivre d'une manière ou d'une autre cette émotion. Ça nous est indispensable. On ne peut pas vivre sans passion, on ne peut pas vivre sans affect. Voilà ce que je voulais dire à propos de cette question des affects. Et alors avec ces trois points que je viens de résumer, dans cette première grande partie, la définition du mythe comme récit des origines fournit une nette distinction entre mythe et fable. Vous devez comprendre maintenant, déjà, qu'un mythe, ben, ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende. La fable, pour le dire directement, la fable n'institue rien, ni dans le récit, ni dans l'action, ni dans l'affectivité profonde. Je dis bien l'affectivité profonde. Seul le mythe le fait. Et c'est pour ça que on exclut la fable de ce programme, on parlera du conte, on parlera de légende, mais pas de la fable, évidemment, pas de la fable. Mais le conte aussi, le conte n'est pas là pour instituer quoi que ce soit, mais c'est quand même au-dessus de la fable. Hein. Donc la fable, j'insiste, n'institue rien, ni dans le récit, ni dans l'action, ni dans l'affectivité profonde, seul le mythe le fait. Et là, on prend conscience déjà de ce qu'est le mythe, il y a une gravité dans le mythe, hein. Il y a quelque chose de très grave. C'est vrai aujourd'hui, hein. C'est toujours vrai aujourd'hui. On n'a pas fait le deuil, hein. On n'a pas rompu avec le mythe qui est chargé comme ça d'affect. Hein. Alors justement, à partir de cette définition possible du mythe, hein, après tout, elle n'est pas exclusive, on est parti de la proposition de Mircea Eliade. Le mythe est un récit des origines, fonction d'instauration qui est très importante, et ça a des conséquences énormes, parce que le rite réactualise le mythe et est chargé d'affect. Bon, alors, on est parti de là, donc on continue, et on passe à la deuxième grande partie de ce cours. Deuxième grande partie, c'est-à-dire, premier exemple appliqué au récit judéo-chrétien. Donc on a une définition qui est ce qu'elle est, elle peut être discutée, elle peut être revue, elle sera sans doute revue, voilà, mais enfin on s'y tient et on va appliquer cet exemple, oui, ou cette définition au récit judéo-chrétien. Donc je vous rappelle, le récit judéo-chrétien, ça nous situe dans le monothéisme. Or, le monothéisme implique un temps linéaire, que vous soyez dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Le temps est linéaire, pour le dire plus simplement. Il y a un début et il y a une fin. A priori, le début est un début une fois pour toutes, donc le temps court, passe, enfin se déroule, si vous voulez, jusqu'à une fin qui sera une fin définitive. Donc c'est un temps linéaire. Bon. Alors à partir de là, on est en droit de se poser la question: quelle est la place d'un mythe des origines dans un monothéisme qui nous propose un temps linéaire? A priori, le mythe des origines va nous raconter les origines et ne plus revenir du tout au fil de l'histoire jusqu'à la fin, puisque le temps est linéaire. Je ne dis pas si le temps est cyclique, si on a une vision, une conception des choses qui est cyclique. Alors oui, le mythe des origines peut avoir de l'importance, mais dans un temps linéaire, non. Et on va voir tout le contraire. En fait, on va voir que dans le cadre du monothéisme, le mythe des origines a une importance considérable. Il revient, et il revient sans cesse, alors que le temps est linéaire. Bon, alors c'est ça qui va nous intéresser, et on prend deux exemples, deux récits, c'est l'histoire du salut, d'abord, et l'eschatologie, ensuite. Alors on commence par l'histoire du salut. Alors d'abord, il faut remarquer que l'histoire du salut, c'est typique de la littérature hébraïque. Elle repose sur une organisation narrative qui est parente du mythe, mais de structure et d'intention différentes. Pour le dire plus simplement, ce récit, a priori, n'est pas un mythe. L'histoire du salut n'est pas un mythe. Il peut y avoir des parentés, mais la structure, l'intention est différente. On peut expliquer ce point. Alors que le mythe rapporte le temps historique à un temps fondamental, vient de l'expliquer. Le mythe, ou plutôt le rite, réactive le mythe. Donc, effectivement, le mythe rapporte le temps historique, notre temps historique, à un temps fondamental. On va chercher le mythe des origines pour expliquer donc ce qui se passe aujourd'hui, le temps historique. Bon. L'histoire du salut, par contre, relie la confession de foi à la narration d'actes de délivrance. Et on va l'illustrer aussitôt par un récit, qui est le récit du Deutéronome, qui va s'afficher aussitôt. Voilà, vous avez la référence. Donc, Deutéronome. Donc, là, c'est l'illustration la plus frappante. Hein. C'est vraiment exemplaire, ce passage, pour comprendre que l'histoire du salut relie la confession de foi à la narration d'actes de délivrance. Et en cela, ben oui, c'est pas un mythe, l'histoire du salut, c'est pas un mythe. Alors, récit du Deutéronome, c'est le chapitre 26, versets 5 à 9, tout à fait exemplaire. Donc, qu'est-ce qu'on lit dans ce passage? Deutéronome, hein, je vous rappelle, c'est l'Ancien Testament. Hein. On est dans un texte ancien, très ancien, de l'Ancien Testament. On est dans le domaine vétérotestamentaire, si vous voulez. C'est un texte très très ancien. Bon. Et alors, voici ce qu'on lit. « Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. » Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix et il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » Et là, vous avez un condensé de l'histoire du salut. Vraiment un condensé de l'histoire du salut. Et surtout, surtout, une histoire qui relie bien la confession de foi à la narration d'actes de délivrance. On ne peut pas trouver dans la Bible un meilleur passage pour l'illustrer. Cependant, ça ne vous a pas échappé, on le voit ici, cette histoire du salut nous ramène à l'origine. Le paradis, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est étonnant, ça, quand même. Hein. Alors, c'est un peu ça, quoi, si vous voulez. Hein. L'histoire du salut, ce n'est pas un récit mythique, en apparence. Ce n'est pas un récit mythique. Bon, au sens, en tout cas, qu'on vient de le dire. On vient de définir le mythe, et l'histoire du salut, ce n'est pas un récit mythique. Bon, c'est un récit confession. Un récit qui couvre l'histoire d'Israël depuis la descente en Égypte jusqu'au don de la terre, en passant par l'événement fondateur, l'Exode. L'Exode, c'est l'événement fondateur. Donc cette grande séquence, que vous avez résumée ici, que je viens d'évoquer à l'instant, organisée autour d'un événement central. L'événement central, c'est l'Exode, est délimitée par deux événements dont la temporalité bien marquée, c'est-à-dire la descente en Égypte, en amont, et le don de la terre, en aval. Vous voyez la séquence, elle est claire la séquence, hein, et bien résumée dans ce passage. Bon, donc cette grande séquence constitue en fait une structure d'accueil pour des récits et des chroniques d'origine très diverses, qui ont été interpolées dans l'espace du grand récit. Donc vous avez ce récit qui est de l'histoire du salut, et on va interpoler à l'intérieur tout un tas de choses. Ainsi, la saga des patriarches y est insérée. La révélation du nom au mont Horeb, du nom avec un N majuscule, bien sûr. Bon. La révélation des grands documents législatifs au Sinaï, par exemple. Bon, c'est les tables de la loi. La marche au désert. Et alors, on peut remarquer combien sont divers les matériaux qui ne sont pas narratifs. On est parti de cette définition, l'histoire du salut, bon, ben, c'est un récit, c'est une narration, bon, c'est un récit confession si on veut, mais on va insérer des choses qui ne sont pas narratives du tout, comme par exemple les théophanies, hein, en haut du Sinaï, Moïse voit la face de Dieu. Donc il est témoin d'une théophanie. Bon. Ou alors on va insérer des documents législatifs, les tables de la loi, par exemple, etc., etc. Enfin, en d'autres termes, les rédacteurs de la Bible, de ces passages, hein, que ce soit le livre de l'Exode, bon, le Deutéronome ou d'autres, bon, les rédacteurs des traditions yavistes et éloïstes. Je ne vous apprends pas en effet qu'il y a plusieurs auteurs qui ont fait la Bible. Hein. Donc les linguistes l'ont bien déterminé. Il y a l'auteur donc yaviste, ou la tradition yaviste, et la tradition éloïste. Enfin, qu'importe, ces rédacteurs ont en quelque sorte étendu en arrière, en direction des patriarches, le schéma narratif, la séquence que l'on a définie, de manière à y englober la geste des ancêtres, la saga ou les sagas des patriarches, et finalement, en étendant toujours plus en arrière leur séquence, ils y ont introduit les mythes d'origine. Et c'est ainsi que dans l'histoire du salut, dans cette séquence narrative, qui n'est pas un mythe, eh bien, on va finalement retrouver le mythe des origines. Parce que les auteurs l'ont voulu, ils ont voulu intégrer, interpoler, insérer dans ce récit tout un tas de choses qui ne sont pas narratives. Bon, et c'est à la faveur de cette distension du schéma narratif. Vous voyez, les deux traditions, les yavistes et éloïstes, distendent comme ça ce schéma narratif. Et surtout en arrière, ils vont chercher en arrière tout un tas de choses, saga des patriarches, etc. Donc c'est à la faveur de cela, mais aussi des interpolations qui l'ont enrichi, cette séquence narrative, et de l'attraction qu'il a exercée sur d'autres documents, qu'un discours d'un genre aussi différent que celui des mythes de création a pu fusionner. C'est-à-dire qu'on arrive à une fusion improbable, tout à fait improbable, entre un récit qui est une narration, une histoire du salut qui n'est pas un mythe, qui va fusionner avec les mythes de création. Il est à remarquer à ce propos que ces mythes de création que vous lisez dans la Bible ne sont pas juifs, spécialement juifs. Hein. Ils sont sémites, si vous voulez, mais ils viennent de l'ère culturelle acadienne, sumérienne, cananéenne. Je ne vous l'apprends pas. Hein. Quand vous lisez la Genèse, ce que vous lisez sont des mythes qui sont bien antérieurs, qui existaient bien avant le judaïsme, mais qui sont récupérés hein, par les Hébreux, parce que les Hébreux ce sont de la même souche sémite, bien sûr, que les Acadiens, les Sumériens, peut-être pas les Sumériens, les Cananéens, c'est sûr. Hein. Alors, voilà ce qui se passe. Vous voyez, donc, il se produit quelque chose d'assez curieux à propos de cette histoire du salut. Bah, finalement, on y intègre des mythes de création, donc ça fusionne avec des mythes de création contre toute attente. Bon. Alors, si bien que, d'un côté, on peut parler d'une historicisation du mythe au contact de l'histoire du salut. Le mythe, qui est le mythe des origines, est historicisé au contact de l'histoire du salut, d'un côté. L'acte de création est, au bout du compte, placé en tête des actes de délivrance. L'acte de création est placé en tête des actes de délivrance comme un premier acte de salut. Et on comprend très bien comment cela est possible. La saga des ancêtres, en remontant toujours plus haut, vers un ancêtre plus primitif, permettait de traiter les mythes de création comme une préface à l'histoire des peuples figurés par les patriarches. Histoire qui, elle-même, servait de préface au grand récitatif du credo de l'Exode qu'on a lu grâce au Deutéronome que vous avez ici. Et d'ailleurs, on aperçoit très bien la suture des deux formes de discours, c'est-à-dire le mythe, hein, qu'on est allé chercher très très loin, et puis le récit, donc la narration. La suture, elle se fait au niveau de la vocation d'Abraham. Remarquez-le, ce récit d'Abraham, la vocation d'Abraham, clôture l'histoire des commencements et inaugure celle des patriarches. Et là, vous avez une suture qui est tout à fait évocatrice et qui permet de comprendre comment il s'est produit une historicisation du mythe au contact de l'histoire du salut. On va toujours chercher plus loin en arrière, hein. Donc les patriarches, les ancêtres, bon, ben, jusque à l'origine de toute chose. Donc on intègre tout ça et effectivement, tout d'un coup, il se produit une historicisation du mythe. Hein. On peut le dire plus simplement, quand vous lisez donc, les premiers livres de l'Ancien Testament, quand est-ce exactement que l'on passe du temps mythique au temps historique, mais vraiment historique. Est-ce que c'est avec Abraham? Sans doute, on ne va pas remettre en question l'historicité d'Abraham, quoique sur un plan strictement historique et archéologique, on n'a rien sur Abraham, hein, on n'a rien du tout. Bon, on ne le remet pas en question, bien sûr, Abraham est un personnage historique. Bon, et justement, c'est la question qu'il faut se poser, et c'est une question qui est troublante quand même, parce que c'est un récit qui se déroule, mais à un moment donné, on passe d'un temps mythique qui n'a jamais existé, bien sûr, puisque c'est la Genèse qui raconte donc tous ces mythes, à l'histoire du peuple hébreu, mais la vraie histoire du peuple hébreu. Et on n'arrive pas à voir, ou pas d'emblée en tout cas, hein, comment on passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est pour le dire autrement, plus simplement, si vous voulez. Bon, alors, pour mieux comprendre ce que je disais, donc, il y a une historicisation du mythe au contact de l'histoire du salut, mais en retour, on peut parler d'une mythisation de l'histoire du salut. Et c'est ce point qui nous intéresse, en fait, hein, plus que le premier. Plus que l'historicisation du mythe au contact de l'histoire du salut. Ce qui est plus important, me semble-t-il, c'est la mythisation de l'histoire du salut. Au contact de quoi, on l'a compris, des récits d'origine, des mythes. À force d'intégrer ces événements très très anciens dans ce credo du Deutéronome que vous avez sur la projection, ben on finit par donc avoir une mythisation de l'histoire du salut. Enfin, je peux m'expliquer autrement. En effet, il faut tenir compte, par exemple, et ça c'est un exemple tout à fait parlant, je crois, j'espère, il faut tenir compte des décréations. Les décréations. Les décréations inaugurent quelque chose, à savoir la condition actuelle de l'homme, méchant, souffrant, mortel, d'où ces mythes de catastrophes intracosmiques qui rythment comme ça, hein, donc cette histoire du salut, mais qui est mythisée si on veut. Bon, les altérations violentes, les chutes, d'où aussi, remarquez-le, le dédoublement de l'origine. Dédoublement de l'origine, c'est-à-dire que ou bien vous avez à l'origine un homme parfait, ou bien vous avez l'homme actuel au sortir de la catastrophe originelle, ou l'un ou l'autre, dédoublement. Alors vous comprenez de quoi je parle, quand je parle de catastrophe intracosmique, de décréation, d'altération violente et du même coup de chute, c'est le déluge. Je parle de l'événement du déluge. Le déluge est un événement postérieur à la création. C'est une décréation qui est suivie d'une recréation, en quelque sorte. Hein. Alors, le mythe du déluge est très intéressant à cet égard. C'est donc un mythe de recréation, mais qui est lié à un mythe de décrépitude, dans le sens où l'humanité qui vivait sur Terre avant le déluge était dégénérée, en quelque sorte, et lié aussi à un mythe de destruction. Donc, recréation liée à la décrépitude de l'humanité et à la destruction de cette humanité, si vous voulez. Bon, c'est ça, le mythe du déluge. Mais remarquez une chose, tout récit de régénération, c'est le récit du déluge, possède la puissance du mythe des origines. Toute recréation a la solennité de ce qui a commencé une fois. Donc on le voit, ben dans le monothéisme qui nous propose un temps linéaire, il y a des événements qui sont des décréations suivies de recréations, mais toute recréation a la solennité de ce qui a commencé une fois, et toute l'affectivité profonde du sacré est déplacée du même coup vers cette nouvelle création. C'est-à-dire que par la suite, la référence, ça ne sera pas Adam et Ève, ça sera Noé. Et il y aura par la suite d'autres décréations qui sont moins graves, peut-être moins brutales, ou des chutes, si vous voulez, hein, suivies de nouvelles recréations. Hein, mais à chaque fois, l'affectivité profonde du sacré sera déplacée vers cette nouvelle création. Alors ça, c'était pour l'histoire du salut. Donc on voit bien que cette histoire du salut, qui n'est pas un mythe, est pourtant donc rattrapée, en fait, par le mythe. Enfin, comme je l'ai dit, on peut parler d'une mythisation de l'histoire du salut au contact des récits d'origine. Bon, on ne peut pas se passer des récits d'origine, hein, les mythes des origines. Hein, les mythes des origines sont très importants. Bon. Alors, prenons l'autre exemple qui est l'eschatologie. Alors, qu'est-ce que l'eschatologie ? C'est une économie de la fin des temps. Soit, mais il faut préciser que c'est une économie de la fin des temps prophétisée. Prophétisée. C'est-à-dire qu'elle est dite, cette économie, par un prophète. Voilà ce que ça veut dire. Il faut qu'il y ait un prophète. Hein. Bon. Alors, a priori, là encore, mythe et eschatologie sont deux structures différentes. C'est comme l'histoire du salut et le mythe. Ce sont deux structures différentes. Deux intentions différentes. Bon, voilà, c'est pareil. Mythe et eschatologie, c'est deux structures différentes. Quand on dit mythe, c'est toujours mythe des origines, c'est toujours la définition de Mircea. Bon, la prophétie, puisqu'il n'y a pas d'eschatologie sans le prophète, hein, il faut que quelqu'un annonce cette eschatologie, cette économie de la fin des temps, la prophétie suppose le temps du récit. Mais c'est pour rompre avec ce temps du récit. Comprenez, donc, la prophétie, elle dit l'événement imminent, donc on est bien dans le récit, mais pour mieux rompre avec lui, avec ce récit. Alors je prends quelques exemples qui sont tirés bien sûr de la Bible. La menace assyrienne à l'horizon du message d'Amos. Amos est un grand prophète, il prophétise et il dit donc que c'est bientôt la fin pour les Juifs si vous voulez, parce que justement la menace assyrienne arrive. Donc on est bien dans le récit, mais pour marquer une rupture. Hein, le prophète va rompre avec le récit hein, et faire peur finalement, hein, faire très très peur. Prenons un autre exemple, la menace du nord qui vient des néo-babyloniens pour Jérémie, le grand prophète Jérémie, qui effectivement parle de cette menace du nord des néo-babyloniens. Et c'est terrible ces textes, hein. D'ailleurs vous le savez, du texte de Jérémie, de la prophétie de Jérémie, qui est dans l'Ancien Testament, on a tiré ces Jérémiades. C'est d'ailleurs un peu trompeur, hein, parce que Jérémiade, c'est quand même assez connoté, c'est un peu larmoyant, pas du tout. Le ton adopté par Jérémie est très, très grave. Hein, ça fait peur, hein, ces prophètes. Hein. Ou alors, la montée de la Perse de Cyrus pour le second Isaïe. Alors, second Isaïe, c'est qui? C'est un auteur, on ne le connaît pas. Donc, il est très proche d'Isaïe, donc on lui dit second Isaïe, on ne sait pas qui il est. Et il va effectivement prophétiser la montée de la Perse de Cyrus. Et là aussi, ça fait très très peur. Hein. Donc, on est bien dans l'eschatologie, c'est la fin quoi, pour les Juifs. Bon, alors, on le voit donc un récit, mais pour mieux rompre avec le récit. La continuité temporelle, si vous voulez, hein, elle est rompue par ce qu'annonce le prophète. Alors, la prophétie opère la transgression du récit, comprenez, une nouvelle intervention de Yahvé est imminente. Elle éclipsera l'ancienne. Yahvé intervient, bon, il est intervenu à l'origine de toute chose, bon, mais par ce jeu de décréation et de recréation, il doit intervenir de nouveau, et c'est ce qu'annonce la prophétie, en fait. Hein, le prophète parle d'une transgression du récit, nouvelle intervention de Yahvé, c'est imminent et ça éclipsera l'ancienne intervention de Yahvé. La prophétie a donc bel et bien une fonction d'instauration. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le maître mot, instauration. C'est la fonction du mythe des origines, instaurer quelque chose. Et donc on le voit, alors qu'on est dans un récit qui n'a a priori rien à voir avec le mythe, ben finalement on retrouve la même fonction du mythe, la fonction d'instauration. Donc c'est-à-dire que la prophétie instaure une nouvelle histoire qui se présente comme un nouvel exode, et donc au bout du compte une nouvelle alliance, enfin tout recommence quoi. On est dans un temps linéaire et cependant tout recommence. Bon. Alors du coup, tout le passé est en quelque sorte métaphorisé. Comprenez simplement, la terre promise devient le symbole de ce qui n'est pas atteint. Et oui, donc les Hébreux ont quitté l'Égypte, c'est encore dit dans ce passage du Deutéronome. Ils ont chassé les Cananéens du pays de Canaan, leur terre promise. Mais voilà, les prophètes les mettent en garde, ils se comportent mal, ils redeviennent idolâtres, que sais-je encore. Donc le prophète annonce la rupture avec tout ça. C'est-à-dire, la terre promise Donc, ben, c'est pas la terre promise, quoi. Donc, au bout du compte. Hein. Donc, on voit que le passé est métaphorisé, c'est-à-dire que cette annonce de la terre promise, hein, qui est promise aux Hébreux, ben, finalement, est le symbole de ce qui n'est pas atteint. La rupture est essentielle à l'instauration du nouvel ordre. Rupture qui est figurée d'ailleurs par le jugement. Le jugement. Ça, c'est très important aussi. Dieu juge. Hein, il est terrible d'ailleurs quand il juge. Hein. Donc rupture qui est essentielle à l'instauration du nouvel ordre, rupture figurée par le jugement, la prophétie est d'abord la tradition brisée, voilà comment on peut présenter la prophétie, c'est la tradition brisée, c'est l'épuisement de l'histoire passée du salut, l'épuisement ou l'invalidation, c'est-à-dire que cette histoire du salut qu'on a évoquée tout à l'heure, ben, voilà, est invalidée, s'épuise ou est invalidée. On peut même dire c'est la nullification de l'advenu. Ce qui doit advenir, c'est la terre promise, et c'est en fait, c'est quelque chose qui ne vient pas. La nullification de l'advenu. Ensuite, hein, si d'abord c'est la tradition brisée, ensuite, la prophétie propose un nouveau pacte, mais sous la forme de l'eschatologie. L'eschatologie, en tant que représentation des fins dernières, nous situe hors de l'histoire, en fin d'histoire. Le mythe des origines est hors de l'histoire, c'est-à-dire avant le début, avant le commencement des choses. Hein. Et l'eschatologie, qui est l'économie de la fin des temps, si vous voulez, nous situe en fin d'histoire, mais hors de l'histoire. Bon. Donc l'eschatologie, au même titre que toute création, est mythologisée. C'est comme l'histoire du salut. On le disait à l'instant, on disait, ben voilà, on peut parler d'une mythisation de l'histoire du salut au contact des récits d'origine. On peut dire la même chose de l'eschatologie qui, a priori, n'est pas un mythe. Hein. Bon, mais effectivement, au même titre que toute création, ben, l'eschatologie sera mythologisée. Mythologisée, hein, on va dire mythologisée pour éviter de dire mythifié, on ne va pas dire mythifié, bien sûr, on dira mythologisé. Et en ce sens, la mémoire de la création est une promesse pour le futur. La mémoire de la création, ce que Dieu a fait donc à l'origine, hein, de ce qu'il a fait à l'origine. Donc ça, c'est une promesse pour le futur. Par son caractère exemplaire, le mythe d'origine est un modèle pour toute création à venir. Toute nouvelle naissance récapitule la première naissance. Ou comme le dit très bien Paul Ricoeur, la formule est concise et très très précise, tous les commencements sont des recommencements. Par exemple, le grand festival du Nouvel An à Babylone, j'en parlais tout à l'heure, justement. Le grand festival du Nouvel An à Babylone, chaque Nouvel An participe du premier jour, puisque à chaque fois, on va réciter le mythe des origines. Donc ce nouvel an participe du premier jour. Hein. Donc tous les recommencements sont des recommencements. Et on peut comprendre, comme cela, la filiation de sens entre mythe de commencement et mythe de fin. On est parti d'un temps linéaire, et au bout du compte, les deux se rejoignent. Donc il y a une filiation de sens entre mythe de commencement et mythe de fin. Les mythes de fin sont des mythes de recommencement. Il y a de multiples fins du monde derrière nous, quantité de fins du monde derrière nous. Il y a des retours au chaos, il y a des émergences. Il y a même dans la théogonie, donc l'histoire des dieux, il y a aussi la fin de certains dieux, des morts de dieux. Pensez par exemple au crépuscule des dieux, dans la mythologie germanique, par exemple. Hein. Bon. Prenons l'exemple de l'intronisation de Marduk, justement, à Babylone. L'intronisation de Marduk, le grand dieu hein, babylonien, c'est aussi la fin des dieux anciens. Les deux dieux anciens sont partis. Bon. Zeus signifie la mort de Cronos. La tragédie raconte la fin du courroux des Erinnies et la promotion d'Apollon, le grand dieu de lumière, dans la tragédie. Hein, donc, d'Eschyle en particulier. Bon. Donc on voit bien effectivement qu'il y a eu des fins du monde, des retours au chaos, et puis des émergences. C'est ce qui rythme finalement ce temps linéaire. Encore une fois, hein, donc tous les commencements sont des recommencements. Les mythes de la fin restent des mythes. Les mythes de la fin, l'eschatologie, c'est bien finalement des mythes dans la mesure où ils transfèrent sur la fin la puissance inaugurale du mythe des origines. On va encore une fois reporter cette puissance, ces affects liés au mythe des origines à la fin de toute chose. Et la contrepartie est évidente. Dans la mesure où l'eschatologie emprunte au mythe de création ses modèles. On vient de le voir à l'instant. L'eschatologie qui a priori, et comme l'histoire du salut, c'est pas un mythe. Alors on voit que finalement, c'est traité comme un mythe. Hein, et qui va chercher dans le mythe des origines, en fait, toute sa puissance. Bon. Dans la mesure où l'eschatologie emprunte au mythe de création ses modèles, elle échoue à se représenter l'inauguration d'une ère nouvelle, en tout cas autrement que comme la restauration de l'origine. Et ça, c'est un échec, il faut le comprendre. On peut se demander si l'eschatologie, lorsqu'elle se charge de la puissance mythique, donc du mythe des origines, si vous voulez, ne perd pas quelque chose de ses intentions de sens, qui est radicalement opposée. Donc, c'est-à-dire que le sens de l'eschatologie, ce n'est pas un retour aux origines. Mais finalement, ça sera quand même un retour aux origines. Bon, alors je prends un exemple. C'est la prédication du royaume de Dieu. Vous savez que c'est le fondement même de la prédication de Jésus dans les évangiles. Hein. Donc, la prédication du royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est une prophétie, Dieu vient, c'est ce que dit Jésus. C'est fondamental, c'est le fondement même de la prédication de Jésus. Alors, a priori, quand Jésus fait cette prédication, hein, donc c'est un prophète, il prédit la venue du royaume de Dieu, etc., etc. A priori quand même, ce n'est pas la répétition des origines, c'est pas ce qu'il dit Jésus dans sa prédication, c'est pas la répétition des origines, c'est quelque chose de tout autre. C'est un royaume du Père qui descendra sur terre. Mais ce n'est pas donc le retour aux origines. Bon. Seulement, donc, on n'y arrive pas à la rupture totale. Hein, c'est-à-dire que l'eschatologie devrait être une rupture totale, mais on n'y arrive pas. Contre le prophète lui-même, contre son intention, l'intention c'est de dire il y a rupture, c'est fini. Donc, l'eschatologie, ça sera la fin, si vous voulez. Hein. Bon, ben, contre lui-même, contre ses intentions, cette autre chose qu'il annonce, le prophète, s'avère être la même chose, celle qui existait à l'origine, c'est-à-dire le paradis. Vérifiez-le, notamment dans le christianisme. Comment les chrétiens voient cette revenue du royaume du Père, sinon que sous la forme de la revenue du paradis. Mais ce n'est pas l'intention du prophète. Ce n'est pas le but de l'eschatologie non plus. Hein. Et là, on voit bien à quel point l'eschatologie, qui n'est pas a priori un mythe, est très très fortement mythologisée, si vous voulez. Donc on ne peut pas, on le voit bien, enfin, j'espère à travers ce cours, on ne peut pas se passer du récit des origines, du mythe des origines. Il est partout, il s'implique partout en fait. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est ce que propose Paul Ricoeur, ce qu'il faudrait, c'est donc procéder à une démythologisation de l'eschatologie. Mais on n'y arrive pas, en fait. Hein. Comme de l'histoire du salut, d'ailleurs. Hein. Mais surtout de l'eschatologie, quoi. Donc, une rupture qui est une rupture. Une fin, quoi. Ou un autre chose. Et pour que ça soit, donc, selon l'intention du prophète, ben, il faudrait procéder à une démythologisation. On ne le fait pas. On n'y arrive pas, notre imaginaire est trop plongé hein, dans ces mythes d'origine, et donc c'est toujours les mêmes choses qui recommencent. Enfin, c'est la formule, la très belle formule de Paul Ricoeur, tous les commencements sont des recommencements, que le temps soit conçu linéaire ou pas. Alors je ne sais pas si donc, vous comprenez donc, ce schéma, bon, qu'importe, donc ce que vous devez percevoir à l'issue de ce premier cours, c'est donc l'importance du mythe, son poids, sa gravité, à quel point il s'implique. Et vous pouvez l'appliquer ça aujourd'hui. Les mythes sont toujours présents. prenez, donc, alors c'est l'exemple de, que je prends dans l'article, que vous lirez, donc, si vous ne l'avez pas lu, donc, sur le site de la CLA, hein, c'est donc, en libre accès, c'est l'exemple des transhumanistes. Aujourd'hui, c'est incroyable ces transhumanistes hein, qui, avec leur, leur technologie, nous promettent quoi ? L'immortalité.
La vie éternelle.
La vie éternelle. Ils nous promettent donc, le retour du paradis. Hein, donc, ils sont en train de construire ce qu'ils appellent, je ne l'invente pas, une ingénierie du paradis. C'est-à-dire, effectivement, l'homme nouveau. On n'en sort pas. C'est l'homme nouveau qu'ils sont en train de, donc, de mettre en place avec leur formule de homme augmenté, l'homme augmenté. Bon, voilà, l'homme augmenté. Voilà, donc, bon. Et en fait, c'est l'homme nouveau, l'avènement de l'homme nouveau. Mais on s'aperçoit que finalement, ce qu'ils nous proposent, c'est toujours la même chose. Et oui, c'est toujours la même chose. C'est la revenue du paradis. On vivra éternellement. On ne souffrira plus, etc. etc. C'est l'homme nouveau. Ça, c'est notre actualité. Et on construit toujours des mythes. Mais ces mythes que l'on construit, bah, on les construit sur les mythes des origines. C'est dire à quel point c'est inscrit en nous. Hein. Ça doit être là, hein, quelque part par là, là dans le striatum, là, le, la partie reptilienne du cerveau. Donc, et on ne peut pas s'en débarrasser. Hein. C'est toujours une influence très forte. Hein. Voilà, bon, voilà ce que je voulais dire. Donc, la troisième partie, le mythe et sa fonction, va bien sûr aborder la question du mythe, comment on l'a défini, mais dans le cadre du polythéisme, cette fois-ci, où là, la notion du temps est plutôt circulaire, revient sur lui-même. Et on va voir effectivement que c'est différent, là. L'approche que l'on peut faire du mythe appliqué au polythéisme est forcément différente. Donc, ça sera le sujet du cours de la semaine prochaine. Des questions, peut-être, hein, n'hésitez pas quand même. Hein. On a quelques minutes. Oui, une question. Oui, voilà, c'est ça. On peut voir les choses aussi simplement que ça, c'est-à-dire que l'homme est confronté à des mystères qui l'angoissent. Hein, donc c'est ce que disait effectivement l'auteur du Sacré. Donc il est angoissé, c'est un éternel angoissé. Il est angoissé par ses origines qu'il ne connaît pas, il est angoissé par son devenir qu'il ne connaît pas non plus. Il est entre les deux. Et comme vous vous dites, il doit se forger donc des choses, des mythes des origines, et il utilise ces mythes des origines pour se projeter dans l'avenir. Donc sans cesse, c'est-à-dire avoir l'espoir de vivre immortel, de vivre au paradis, etc. Donc oui, oui, on peut voir les choses comme ça. Donc la sagesse, c'est, comme vous le dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est ou bien ça, c'est-à-dire, on s'invente des mythes, on s'invente des dieux, et on donne du sens à ce monde ici-bas. Si on n'a pas ça, ce monde ici-bas, cette vie, n'a aucun sens. Voilà. Et donc, ça, c'est pas imaginable. L'homme ne peut pas vivre s'il ne donne pas du sens à sa vie. Donc, il lui faut une structure qui soit... voilà, une structure, c'est ce qu'on verra justement la semaine prochaine. Donc, il y a une structure du mythe qui le rassure, qui lui permet de donner du sens. S'il n'a pas ça, s'il n'y a pas de sens à la vie, on ne peut pas vivre sans donner du sens aux choses. Voilà, donc, deuxième partie, alors la semaine prochaine, le mythe et sa fonction.